vous m'en direz tant ?
Puisque c'est l'été, les vacances et tout ça, parlons du tourisme. Apparemment, le tourisme aura été la principale victime du coronavirus. Et il est en ce moment dans une tentative désespérée de remonter la pente ou au moins de sauver les meubles. On nous parle souvent du tourisme sur un plan économique, mais évidemment, le commun des mortels n'est intéressé que par son tourisme à lui. Pourtant, le poids du tourisme dans les produits intérieurs bruts des pays est parfois très important. En France, on en était arrivé à 9% en 2019, avant que tout soit remis en cause. Certains pays sont plus tourismo-dépendants les uns que les autres et que nous. Et on estime que dans le monde, un emploi sur 10 est directement lié au tourisme, quelle que soit la forme qu'il peut prendre. Si nous cessions de faire du tourisme, puisque ça se fait, une personne sur 10 ne servirait plus à rien. D'ailleurs, si nous cessions de nous quereller, d'autres seraient sans utilité. Si nous cessions de manger de la viande, les éleveurs pyrénéens n'auraient plus qu'à élever des ours pour les touristes. Mais non, il n'y a plus de touristes. Mais je ne suis pas doué pour l'économie, et ce qui m'intéresse bien davantage est pourquoi faisons-nous du tourisme ? Quelle est la psychologie du touriste ? Dès son apparition sur cette terre, l'homme, donnons-lui tout de suite son nom moderne pour gagner du temps, l'homme donc a beaucoup voyagé. On a dit que c'était pour trouver sa nourriture, mais on n'y était pas. Et qui peut savoir si c'était la seule motivation de nos ancêtres, qui ont fini par être partout sur la planète ? Il semble bien que l'homme soit curieux par nature. Il veut voir ce qu'il y a derrière la montagne, au bout de l'océan, maintenant au-delà de l'atmosphère, du système solaire, de la Voie lactée. Le touriste serait donc a priori curieux. Mais quelle est la nature de cette curiosité ? Quelle curiosité peut être satisfaite par une croisière sur un paquebot de luxe, tous issus à peu près de la même catégorie sociale, où les différences de couleur ou d'accent correspondent en général à la différence entre les clients et le personnel. Un des problèmes du tourisme est que, pour des raisons économiques évidentes, il est très organisé. Les paysages deviennent des photos, les peuples des objets de musée. Ce n'est pas si simple de côtoyer les peuples. Dans ma jeunesse, j'ai fait le touriste en Afrique. Les Africains m'intéressaient pour des raisons artistiques en général et musicales plus particulièrement. Je ne les ai pas réellement rencontrés. Il y avait entre eux et moi une sorte de paroi infranchissable liée au fait même du tourisme. L'ombre économique que je jetais en tant que touriste m'empêchait de les contacter vraiment. J'étais un objet économique dont ils cherchaient à tirer un maximum de parti. Je n'étais plus tout à fait un être humain comme eux, un musicien comme certains d'entre eux. Un humoriste disait que pour réellement rencontrer des peuples anthropophages, la seule solution était d'être mangé par eux. Il reste dans le tourisme une tâche indélébile qui ressemble au colonialisme. Ce colonialisme qu'on interroge beaucoup ces temps-ci, pouvait-il être évité ? Le tourisme rêve de grands espaces, de liberté, de solitude. Curieusement, on le retrouve souvent agglutiné sur des plages, tassé dans des refuges de montagne, se mouvant en troupeau dans des monuments historiques sous la houlette d'un guide. C'est que les grands espaces sont difficiles à atteindre, et ils sont de plus en plus rares. S'épuiser pour conquérir le Mont Blanc et faire littéralement la queue en vue du sommet est réellement déprimant. Si peu qu'en haut on ne voit plus rien à cause des nuages. Et puis, tout de même, les grands espaces se méritent. Souvent, ils font un peu peur. Au fond, le touriste, même s'il rêve d'îles désertes, de sommets solitaires, préfère y aller en groupe. Le touriste cherche le dépaysement. Changer de pays, certes, mais en conservant l'essentiel de la nourriture à laquelle on est habitué, en buvant de l'eau minérale en bouteille à cause du paludisme, en dormant sous une moustiquaire à cause du même, mais aussi de la fièvre jaune, du chikungunya. En fait, si changer de pays est simplement changer de décor, cela peut se faire à moindre frais. Si on est plus exigeant, eh bien il faut accepter un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, qui nous est hostile. Bref, le dépaysement n'est pas sans risque ni désagrément. D'ailleurs, il n'y a qu'à observer les émigrés qui sont au fond des touristes d'un genre un peu particulier pour comprendre combien il est pénible de quitter son milieu naturel. Et si l'intérêt du dépaysement n'était finalement que le retour au pays lorsque prend fin le voyage? Le touriste cherche le dépassement de soi. Bon, moi aussi je cherche à comprendre. Si vraiment on a joué le jeu du dépaysement, de la curiosité culturelle, de la solitude édifiante, oui, on ne s'est pas réellement dépassé, mais on s'est au moins enrichi, ce qui est la moindre des choses vu ce qu'on a dépensé. Le problème est que l'on reste soi. Pas moyen de s'échapper de soi. On peut s'échapper de son environnement, de sa routine, de ses proches éventuellement, des contraintes sociales dans lesquelles on évolue habituellement. Mais à la fin des fins, on se retrouve face à face avec soi. Le touriste cherche peut-être simplement à aller là où il n'est pas. Mais quand il y est enfin, que se passe-t-il ? En fait, le seul vrai tourisme est celui dont on ne revient pas. Alors, livrons-nous sans trop nous casser la tête à cette parodie de voyage exploratoire qui, au moins, enrichit 10% de l'humanité. Et puis, n'oublions pas de prendre des photos pour épater les amis au retour. Et si c'était ça la vraie motivation du touriste ?